Nous avons, dans les pages précédentes, essayé de situer les religions païennes dans une perspective biblique, d'un point de vue positif, en montrant les valeurs religieuses qu'elles contiennent et cependant en quoi elles sont radicalement différentes des religions bibliques. Et nous avons abouti à voir en elles l'expression d'un moment de l'histoire du salut, celui de l'alliance cosmique qui s'est trouvée périmée dès lors que l'alliance avec Abraham a amené une promotion nouvelle. Mais cette considération est abstraite et incomplète. En effet, dans la réalité, les religions païennes ne présentent jamais cette révélation cosmique à l'état pur, mais toujours plus ou moins déformée. À ce stade, en effet, l'homme, comme le dit saint Paul, cherche Dieu à tâtons, sans la lumière de la révélation positive. Et il en résulte que, si c'est bien le vrai Dieu qu'il cherche, la représentation qu'il s'en fait est toujours déficiente. Nous voudrions maintenant indiquer les principales déformations de l'idée de Dieu dans ces religions. On peut les ramener à trois principales: le polythéisme, le panthéisme et le dualisme. Le polythéisme est la déformation de l'âme religieuse primitive. Le cosmos, pour elle, nous l'avons dit, est rempli de hiérophanie. L'eau qui jaillit de la source, l'orage qui éclate en tonnerre et en éclair, la lune qui illumine la nuit, toutes ces merveilles lui apparaissent comme l'expression de forces mystérieuses. Et elle se représente spontanément ces forces comme des êtres plus puissants et plus intelligents. Le monde se peuple ainsi de Dieu. Apollon lance les flèches du soleil, Neptune préside aux flots de l'océan, Déméter aux moissons fécondes, les naïades font jaillir l'eau des sources et les dryades se cachent dans la frondaison des chênes. La littérature grecque et latine nous a familiarisés avec les dieux du monde hellénistique et romain. Les jours de la semaine, les mois de l'année rendent toujours vivants dans les mémoires Mars et Vénus, Jupiter et Saturne, Janus et Maya. Mais toutes les religions païennes, y compris les plus hautes, ont leur polythéisme. L'Inde en particulier connaît Vishnu, le dieu bienveillant et aimable, et Shiva, le dieu sauvage des glaciers de l'Himalaya. Krishna, le dieu qui se mêle aux rondes nocturnes des bergères, et qu'exaltera le Gabhavat Gita. Radha, la déesse féminine, Ishvara, le dieu vivant de la Bhakti. Et à travers les hautes spéculations que développe à leur sujet la théologie de l'Inde, leur attache profonde avec les forces de la vie et de la végétation reste apparente aussi bien que pour la Déméter et le Zeus grec. Certes, ce polythéisme s'organisera souvent de façon hiérarchique. La notion d'un dieu suprême apparaît dans les religions primitives de l'Australie. L'Inde verra dans les divers dieux des manifestations d'un unique principe. La religion romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ identifiera le dieu suprême au soleil. Viennent ensuite les dieux secondaires qui forment le panthéon céleste. Puis les innombrables divas, les daimones des Grecs, divinités innombrables qui président à toutes les fonctions de la vie, à toutes les réalités de la nature, à tous les événements de la famille, à toutes les parties de la maison. Saint Augustin ironisera un peu lourdement sur ces dieux familiers qui ressemblent à nos anges. Mais précisément, et c'est ce que répondra Origène à Cels, le malheur est de les prendre pour des dieux. Le chrétien aussi croit que des êtres mystérieux président aux sources et aux forêts, veillent sur les familles et les cités, protègent le petit enfant et conduisent les âmes au paradis. Mais il prend soin de ne pas faire de ces êtres des divinités. Ce sont des anges, des créatures comme les hommes. On a souvent accusé le catholicisme d'avoir restauré le paganisme et donné satisfaction au polythéisme spontané des simples par le culte de la Vierge, des anges et des saints. Mais autre chose est ce sens des innombrables présences protectrices qui environnent l'existence humaine et autre chose d'y voir des êtres divins. Ainsi, le polythéisme hiérarchisé reste encore un polythéisme. Il ne suffit pas qu'il y ait un dieu suprême pour qu'il y ait monothéisme. Plus satisfaisant pour l'esprit, ce paganisme hiérarchique reste marqué de l'erreur foncière du polythéisme. Combien cette erreur correspond à la pente de l'âme religieuse, combien il lui est normal de peupler le monde de présences sacrées, l'histoire du peuple hébreu en est l'éclatant exemple. Il faudra 2 millénaires pour enraciner le monothéisme dans une humanité toujours portée à dresser des autels, à Astarté dans les bois sacrés et sur les hauts lieux. Ces dieux proches, faciles, indulgents et pourtant puissants et mystérieux, leur présence n'était-elle pas comme physiquement sensible quand l'ombre envahissait les bois et que le silence semblait rempli de leurs rumeurs. C'est pourquoi nous comprenons que ce soit à ce paganisme que les pères de l'Église se soient attaqués avec le plus de violence. Même si les mythes et les rites étaient porteurs de réalités divines, le polythéisme qui les imprégnait faussait tout. Et comme il était difficile de l'arracher des âmes humaines, c'est ce paganisme populaire qui était le plus grand obstacle à l'Évangile. Et le mot même de païen évoque cette religion élémentaire des campagnards et leurs superstitions multiples. Et même nous, que la foi a arraché à ces faux dieux, combien difficilement notre imagination se déprend de leurs merveilleuses histoires qui enchantent encore nos songes. Si le polythéisme est l'erreur de la religion cosmique populaire, le panthéisme en est la tentation métaphysique. On peut dire que c'est le point où viennent échouer toutes les religions non bibliques, et en particulier les plus hautes, aussi bien l'hindouisme de Kantsara que le néoplatonisme de Plotin. Et en effet, la réduction à l'unité est la pente invincible de l'esprit métaphysique comme de la religiosité mystique. La multiplicité apparaît comme une dégradation qui doit se résorber. C'est en quoi l'affirmation chrétienne que le 3 est aussi primitif que le 1 et qu'il est constitutif de la structure de l'être est le plus grand des paradoxes. Et c'est cette consistance de la Trinité en Dieu même qui garantit dans la création la consistance des personnes humaines. Le propre du panthéisme est d'effacer les frontières qui séparent Dieu de ce qui n'est pas lui, de méconnaître à la fois l'absolue transcendance de Dieu, puisque tout est en quelque manière divin, et la consistance de la créature, puisqu'elle n'existe pas en dehors de Dieu, mais qu'elle se résorbe finalement en lui. Ce panthéisme peut avoir des formes multiples. Il est, pour le pythagorisme et pour le platonisme, dont dépendra le gnosticisme, dans l'identification de l'intelligible et du divin. Toute âme est une parcelle de la divinité, prisonnière du monde sensible, et qui doit s'en libérer pour revenir à sa vraie patrie. Chez Plotin, cette unité s'exprime dynamiquement dans une hiérarchie d'hypostases qui sont à la fois dégradation et déploiement de l'un, et qui reviennent à lui par un mouvement de conversion. Mais la vraie patrie du panthéisme est l'Inde. Nulle part l'intuition de l'unité essentielle du tout ne s'exprime aussi complètement. Chaque âme humaine, Atman, n'est qu'un mode de l'âme universelle, Brahman. Et quand l'homme rentre en lui-même, il coïncide au-delà de lui-même avec cette âme universelle qui est plus lui-même que lui-même. La philosophie de Sankara pousse cette conception dans le sens d'un radical acosmisme, pour lequel le monde, le cosmos, est pure illusion, songe éveillé, et où l'unité primordiale existe seule. Mais la tradition ordinaire voit dans le monde des apparences la Maya, une manifestation de Brahman, comme les franges ultimes de son vêtement cosmique. Dans cette perspective, Dieu n'est pas vraiment transcendant puisque rien n'est distinct de lui. Il est l'identité foncière sous l'apparente multiplicité. Et ceci nous apporte un complément d'explication sur la différence de la mystique cosmique et de la mystique biblique. Pour la mystique cosmique, la tentation est le panthéisme, qui fait penser à l'âme qu'elle est divine en son fond. Dès lors, l'effort mystique est de dégager ce fond de l'âme, qui est Dieu même, de tout ce qui le revêt et l'obscurcit. Mais trouver Dieu n'est que retrouver le divin que l'on porte en soi. Au contraire, pour le mystique biblique, Dieu est absolument inaccessible, séparé de l'homme par sa transcendance radicale. Tout effort humain est donc impuissant à le saisir. Il n'est possédé que s'il se donne. Et il ne se donne que par amour. Aussi, par un renversement capital, c'est l'agapé, le mouvement d'amour qui descend de Dieu, qui est l'essentiel, et non l'éros, l'élan ascensionnel du désir humain. D'autre part, si Dieu n'a pas une consistance propre hors de l'esprit humain, celui-ci n'a pas de consistance propre hors de Dieu, étant en son fond identique à lui. C'est finalement en lui qu'il se résorbe. Et ceci aboutit à une autre différence du mysticisme cosmique et de la mystique chrétienne. Le terme du premier est une fusion où l'homme se dissout dans l'un. La personnalité, en tant qu'elle implique existence distincte, est senti comme une limitation. Pas plus que Dieu n'est personnel, Ishvara, le Dieu personnel, est une hypostase seconde du Brahman, impersonnel, l'homme n'est une personne. Au contraire, la mystique chrétienne est une union d'amour qui suppose la distinction des personnes. Elle est amour créateur de la part de Dieu qui fait subsister devant lui l'homme comme objet d'amour. Et elle est retour d'amour chez l'homme qui se rapporte librement au Dieu dont il se reçoit. Tout ceci se ramène à l'absence dans les religions cosmiques d'une idée claire de création, en tant que cette idée implique distinction radicale de Dieu et de la créature, consistance de la créature devant Dieu, permanence sans fin de la créature. Pour le panthéisme, au contraire, selon le mot de Valéry, l'univers n'est qu'un défaut dans la pureté du non-être, de l'être totalement indéterminé. Les cosmogonies des religions cosmiques ne sont pas des récits de création, mais le déploiement de la diversité de la nature à partir d'un germe primordial, œuf cosmique ou tohu-bohu. Et il est remarquable que le premier chapitre de la Genèse, reprenant les éléments matériels des cosmogonies chaldéennes et cananéennes, en modifie radicalement le sens, en y introduisant l'idée de création, bara, c'est-à-dire d'une action proprement divine qui suscite l'existence du néant, et non d'un simple déploiement de l'être éternellement existant. Le panthéisme terminal du mysticisme correspond ainsi au panthéisme initial du mythe. Il est le mouvement de conversion qui correspond à celui de l'expansion. Il n'y a pas à cet égard de différence radicale entre la conception de Dieu des cosmogonies primitives et celle des mysticismes païens les plus évolués. On trouve dans les unes comme dans les autres ce flottement de la pensée qui hésite aux frontières du divin, qui se perd en intermédiaire. Seule la révélation biblique portera le glaive aigu de la parole de Dieu dans cette obscurité et y discernera implacablement la sphère du divin et la sphère du créé. Nulle part n'apparaît mieux qu'ici la difficulté de l'esprit humain laissé à lui-même dans sa quête de Dieu à s'en faire une idée valable. Il reste que le panthéisme est la perversion et la maladroite interprétation d'une intuition juste. De même que le polythéisme est la déformation de la piété, de la bhakti, en quête de l'objet de son adoration et qui le multiplie à foison, le panthéisme est la déformation de la réalité de l'immanence divine. Car si Dieu est au-delà de tout, il est aussi en tout. Il est vrai qu'il est présent au cosmos, qui est son temple. Saint Paul le disait aux païens athéniens, « C'est en lui que nous nous mouvons, que nous vivons et que nous sommes. » Il est vrai plus encore qu'il est présent à l'âme et qu'il n'est pas loin de ceux qui le cherchent. Mais cette présence divine, le panthéisme ne sait pas y reconnaître la réalité d'un Dieu personnel, qui est tout ce qui est et rien de ce qui est. La troisième perversion des religions cosmiques est le dualisme. Encore qu'on en puisse trouver des éléments dans beaucoup de religions païennes, il n'apparaît comme un élément majeur que dans certaines d'entre elles. Il caractérise le mazdéisme iranien de Zoroastre, qui oppose le principe lumineux Ahura Mazda et le principe ténébreux Ahriman. Mais surtout, il prendra un immense développement et deviendra une religion mondiale dans le gnosticisme, qui apparaît à peu près en même temps que le christianisme et qui, sous la forme du manichéisme, s'étendra de l'Afrique du Nord au Turkestan chinois du IVe au VIIe siècle. Il garde encore un réel attrait pour les esprits modernes. Simone Weil y reconnaîtra la structure la plus sympathique à son esprit. Il faut bien préciser en quoi consiste le dualisme. Il ne s'agit pas d'affirmer l'existence des dieux égaux et opposés. Comme l'a bien démontré Simone Pêtrement, les dualistes sont monothéistes. Ils n'appellent pas Dieu le principe du mal, mais ils pensent qu'il y a dans le monde un principe complètement étranger au bien, une substance qui n'a jamais eu en Dieu son origine et qui est, sinon le mal, du moins la cause du mal. On voit donc à quel problème répond le dualisme, et que c'est un problème fondamental. Celui de l'existence du mal. Celle-ci est un fait. Or, le mal ne saurait être attribué à Dieu. Comment expliquer son existence? Le néoplatonisme et l'hindouisme y voient une illusion. La connaissance le fait évanouir. Mais cette solution explique difficilement son surgissement. Le christianisme y voit l'effet de la liberté d'ange et d'homme créés bons, mais qui, étant distincts de Dieu, ne sont pas bons par essence, et en qui, par conséquent, peut s'introduire une faille entre l'être et le bien, qui est le mal. Celui-ci est une conséquence de la contingence, c'est-à-dire de la création. Il n'est possible que là où il y a créature distincte de Dieu. C'est en quoi l'idée de création apparaît ici encore comme la pierre d'angle de la révélation biblique. La solution dualiste est différente. Le mal est une réalité qui a son existence propre et qui ne doit rien ni à Dieu ni à l'homme. Il fait partie de l'être. Il est un principe sui generis. Ce principe semble s'identifier d'ordinaire chez les gnostiques avec la matière. Celle-ci n'est pas créée par Dieu. Elle est un principe distinct de lui. Le gnosticisme de Valentin voit dans le cosmos l'œuvre d'un démiurge qui est une sorte de dieu maladroit, auteur d'une œuvre manquée. C'est ce démiurge qu'il croit reconnaître dans le dieu de l'Ancien Testament. L'homme naît donc dans un monde mal fait, mais il y a cependant en lui une étincelle tombée du plérôme. L'objet de la gnose est de le lui révéler et de lui permettre ainsi de sortir de ce monde, d'échapper à la tyrannie des cosmocrators, des démons planétaires, pour rejoindre la création véritable, le monde lumineux des éons, qui est l'œuvre du vrai Dieu. Le dualisme n'est pas une religion primitive. Il apparaît dans un monde où l'optimisme de la religion cosmique se heurte à la réalité du mal. Il est la contrepartie de la religion cosmique. Tous les objets sacrés qui ornaient pour celle-ci le temple cosmique ne sont plus que les sordides ustensiles de la prison cosmique. Les dieux familiers du polythéisme deviennent des démons féroces. Le dualisme est l'expression de la conscience malheureuse, et il lui apporte un espoir de salut. C'est là ce que lui donne sa résonance profondément humaine. Il est la réponse la plus simple et la plus évidente au mystère du mal. Les travaux de M. Puech ont montré qu'il représentait une des structures fondamentales dans lesquelles la relation du monde et de Dieu a été pensée. La religion biblique retiendra la vérité du manichéisme. Elle affirmera que le mal n'est pas un problème que l'homme peut résoudre par lui-même, mais un mystère qui le dépasse. Elle montrera l'homme captif du prince de ce monde, et qui ne peut en être libéré que par le Christ. Mais elle refusera de voir dans le mal un principe positif, doué d'une consistance propre, sans pourtant le réduire à un simple désordre de la volonté humaine. Elle reconnaît un mystère du mal, une source vénéneuse d'où celui-ci suinte dans l'humanité. Mais ce mystère du mal rentre lui-même dans la création de Dieu. Il a son origine dans une liberté créée. C'est le mystère de la chute de Lucifer, l'ange créé bon et déchu de sa splendeur. Il est donc faux de parler, comme le fait Simone Petremann, de dualisme à propos de la Bible ou de saint Paul. On peut seulement dire qu'il y a parfois des infiltrations dualistes dans le judaïsme, en particulier dans la doctrine essénienne, telle que nous l'a fait connaître le manuel de discipline, et qui montre Dieu établissant à l'origine un ange des ténèbres en face d'un ange de lumière. Le dualisme apparaît ainsi comme l'expression d'une défaillance de la pensée dans son effort pour se représenter la relation de Dieu et du cosmos, aussi bien que le panthéisme. C'est une solution plus simple que celle de la Bible, mais qui représente une impuissance à maintenir la relation radicale de Dieu et du monde, du fait de l'existence du mal. La pensée biblique maintient cette relation radicale et voit dans le mal une apparition secondaire. Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, qu'elle prétend en donner une justification rationnelle, mais le mal lui apparaît précisément comme un de ces problèmes limites que la raison ne peut circonscrire et qui oblige l'esprit humain à rester ouvert à une révélation qui peut seule l'instruire dans les secrets derniers de l'existence et de l'histoire. Ainsi avons-nous suivi les démarches de l'âme religieuse païenne, cherchant à tâtons dans ses ténèbres le Dieu vivant si proche et si inaccessible. Elle porte un témoignage massif et valable de la vérité de Dieu. Et nous devons reconnaître dans leur démarche cultuelle, doctrinale, mystique, l'expression d'une révélation de Dieu qui parle à toute âme humaine à travers le cosmos, la conscience et l'esprit. Mais dans cette recherche de Dieu, l'âme païenne s'égare et défaille. Non soutenue par l'appui d'une révélation positive, elle exprime mal ce qu'elle perçoit, elle hésite et se trompe. C'est ce double aspect qui fait de son histoire à la fois quelque chose de si grand et de si décevant. L'appel profond qui monte des profondeurs de l'humanité religieuse vers une lumière qui lui sera donnée seulement en plénitude par Jésus-Christ.